Il y a cette promesse sur chacune de nos vies ici, ce matin, et je voudrais qu'on la relise ensemble, avant de rentrer dans le message. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Puisque cela nous distingue des autres, alors lisons-le. Nous, au contraire, nous sommes une race élue. Nous, au contraire, nous sommes une race élue. Au contraire. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Au contraire des autres, une nation sainte. Et que ces paroles qui sont la vie et la vérité, ce matin puissent vraiment venir nous choquer tout au profond de nous, de nos êtres. Parce que, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour la cause de Jésus. Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous, qui autrefois n'étions pas un peuple et qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde et qui maintenant avons obtenu miséricorde. Amen. Est-ce qu'on est aligné avec ça? Nous, au contraire, est-ce qu'on est aligné avec ça? Parce que sinon, le message qui va suivre, on ne va pas le comprendre. Alors, gloire à Dieu si on est aligné avec ça. Parce qu'on va pouvoir construire sur de bonnes bases. Et ça, c'est la base. Comme tant d'autres choses. Je vous ai raconté un songe il n'y a pas très longtemps. Mais je ne vous ai pas tout dit. Et j'ai juste envie de vous révéler ce qui s'est passé juste après. Parce que ce songe, comme je vous l'ai raconté, s'est terminé sur une grande victoire. Vous vous souvenez? Je me suis levé, je dis au nom de Jésus-Christ, fils de Dieu, maintenant vous sortez. Enfin, c'est eux qui sont sortis d'eux-mêmes. Vous vous souvenez, c'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Très étrange. Parce qu'ils ont dévalé les escaliers en prenant peur, mais je les entendais encore. Et ils murmuraient sur moi, contre moi. Et j'ai eu peur. Après cette grande victoire, j'ai eu peur. J'étais encore dans le bureau à ce moment-là que je cherchais une cachette. Et je tentais de me cacher derrière des cartons, enfin impossible. Je me disais, mais ils vont me trouver. Et là, je me dis, il faut que je sorte du bâtiment. Et j'ai trouvé une cachette sous un buisson. Je m'arrête là. J'ai eu peur parce qu'on me voulait du mal, parce qu'on disait du mal de moi. Et parce qu'en fait, quand ils ont dévalé les escaliers, ils sont partis dire, on va appeler la police et on va dire qu'il a pris notre place. Donc on va appeler des renforts. De 4, vous allez voir tout à l'heure, ils sont passés à beaucoup plus nombreux. Et en reprenant l'histoire de 1 Samuel qui nous concerne actuellement, avec l'histoire de David notamment et la vallée des Térébintes et tout ce qu'on a pu entendre depuis 2 semaines, je me suis souvenu d'une histoire d'un homme qui lui aussi a eu peur. Et il s'est caché derrière des bagages. Est-ce que ça vous parle? Le roi Saül, qui n'était à ce moment-là pas roi, mais qui allait le devenir. Et j'ai envie qu'on parle du roi Saül ce matin. Parce que le roi Saül, l'histoire du roi Saül est révélatrice. De de ce que nous sommes quand nous avons peur et des choix que nous faisons quand nous avons peur. Alors allons-y. On va reprendre le contexte de 1 Samuel chapitre 8, versets 7 à 8, s'il te plaît, qui dit ceci. Alors oui, d'abord avant ça, pardon, tu peux le laisser afficher, mais je vous remets dans le contexte. Samuel, à ce moment-là, est juge en Israël. Et normalement, il est en train de former ses fils à prendre la suite. Vous savez que Samuel lui-même, son père spirituel, si je puis dire, c'était Élie, qui lui-même avait des fils, avec lesquels ça ne se passait pas très bien. Et rebelote avec Samuel, il a des fils avec lesquels ça ne se passe pas du tout bien. Leurs fils sont rejetés par le peuple. Les fils de Samuel sont rejetés par le peuple, puisque les fils de Samuel étant juges, sont corrompus. Donc le peuple voit ça évidemment d'un mauvais œil. Les anciens d'Israël décident de se rassembler et disent à Samuel, « Maintenant tu es vieux Samuel, tes fils ne sont pas à la hauteur de la tâche Samuel. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » À ses dires, Samuel n'apprécie pas la nouvelle. Il n'est pas content. Et Dieu non plus. Dieu n'est pas surpris, puisque ça faisait partie de son plan d'avoir un roi sur Israël. C'est Deutéronome 17 qui nous le dit. Mais à ce moment-là, ce n'était peut-être pas le temps. Samuel n'apprécie guère Dieu non plus. Pourtant, que va dire Dieu à Samuel ? L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. De toute évidence, ce que nous disons ce matin, ce que nous faisons, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que nous voulons marcher de gloire en gloire. C'est parce que nous avons fait le choix d'un Jésus qui est l'autorité de nos vies. Amen à ça ? Est-ce que c'est vrai ? Oui ou non ? Est-ce que Jésus est l'autorité suprême de nos vies ? Est-ce que c'est lui qui dirige nos pas ? Ou est-ce que nous cherchons à servir d'autres dieux ? C'est là ce qui s'est passé. Ce qu'a dit Dieu à ce moment-là, c'est qu'ils m'ont abandonné. Ils sont allés chercher d'autres dieux. Alors, Samuel écoute, et malgré tous les avertissements de Samuel qu'il donne au peuple, le peuple qui demande donc un changement de régime pour passer à un régime de royauté, le peuple n'écoute pas les avertissements, il veut un roi. Dieu dira donc, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Comment on fait pour s'approprier ces passages ? Eh bien, on se dit peut-être que Dieu, finalement, parfois, nous donne ce que nous demandons, mais ça ne veut pas dire qu'il le cautionne. Ça ne veut pas dire qu'il le cautionne. À cause de quoi ? De notre entêtement. Pourtant, Dieu n'abandonne pas avec nous. Parce que si les hommes ont des plans, ont des projets, ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent, nous dit la parole. Alors Dieu n'abandonne pas son peuple, loin de là. Alors on continue. 1 Samuel, chapitre 9. Et là, on recherche maintenant le roi. Qui sera le roi ? Qui est-il ? Donc Samuel, il va être averti de celui que Dieu a choisi. Dieu va lui dire, voilà, tu iras à tel endroit et ce sera telle personne, etc. Donc c'est Dieu qui choisit le roi. Et c'est intéressant de voir qu'à une demande charnelle du peuple, Dieu, évidemment, ne répond pas charnellement. Il ne peut pas répondre charnellement. Mais il répond avec une réponse charnelle. 1 Samuel 16, verset 7. 16, verset 7 nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Peuple d'Israël, vous voulez un homme qui frappe à vos yeux. Je vais vous donner un homme qui frappe aux yeux. » Et Saül était parfaitement adapté à la demande du peuple. Et ça, c'est révélateur du cœur d'Israël. Le peuple, à ce moment-là, a besoin d'une force qui soit visible. Et il ne veut plus faire confiance à une foi invisible. Dieu n'est plus suffisant pour le peuple d'Israël. On cherche un homme fort, une force visible, qui soit capable de représenter le peuple. Alors on va chercher Saül. Et la pédagogie de Dieu est excellente, parce que Dieu n'abandonne pas son plan. Il y avait une demande de royauté qui était fondée sur l'apparence, mais dès lors, Dieu va lui préparer une royauté fondée sur le cœur. Mais pour l'instant, on est sur une royauté qui est fondée sur l'apparence. Parfois, on est pressé parce que les circonstances nous semblent mauvaises, inappropriées, et on veut devancer le Seigneur. Ça nous est tous arrivé. On veut faire à sa place. Le Seigneur te dit, chut, patiente. Mais non, on n'a pas le temps de patienter. On y va quand même. Et Dieu te dit, Dieu nous dit, ok, parce que je suis un Dieu de grâce, je te donne. Mais ce n'est pas ainsi que j'avais écrit l'histoire. Donc tu vas apprendre par ton entêtement à renouer avec ma volonté. On va faire à ta façon. Ok, je descends avec toi, on fait à ta façon. Dieu va donc décider, accepter de nous donner ce que nous avons désiré charnellement pour nous révéler ce dont nous avons réellement besoin. En outre, Saül, qu'est-il dit au sujet de Saül ? Saül, c'était un homme humble. Il a dit comme ça, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus ?» Lorsque Samuel s'est présenté à lui, qui lui a dit, « Tu seras roi, Saül. Bah, »« Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Vous vous souvenez de la description qui est faite du roi Saül ? Il était beau, plus beau que tout Israël. Et il les dépassait tous d'une tête, force visible, quelqu'un capable de représenter le peuple à cause de son apparence. On s'appuie sur une force visible, il fallait quelqu'un qui tape à l'œil. On va chercher le plus beau de tout le royaume. Et celui qui dépasse les autres d'une tête. On continue. Saül est loin. 1 Samuel chapitre 10. Saül est loin par Samuel au chapitre 10, oui, et confirme le choix de Dieu. L'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage ? Et là, il se passe quand même quelque chose d'exceptionnel. Parce que Dieu, malgré tout, va préparer son oin. Il l'a choisi, à la demande du peuple, certes, mais il va quand même le préparer. Que va-t-il faire avec Saül ? L'Esprit de Dieu va saisir Saül. Saül va commencer à prophétiser. Saül est changé en un autre homme. Saül obtient un cœur nouveau, nous dit la parole. Dieu, malgré tout, va décider de s'investir personnellement dans cette histoire. Il va décider de s'investir personnellement dans nos vies, malgré tout. Et il va confirmer par des signes très clairs à Saül qu'il est bien son oint, qu'il est bien le roi qu'il a choisi. Parce qu'il va dire à Saül maintenant, par la bouche de Samuel, maintenant tu vas aller là, et tu vas rencontrer telle personne, et tu vas aller là, et puis après ce sera telle personne. Et tout se passe selon ce que Dieu a dit. Donc Saül, à un moment donné, il se dit, c'est bon. De miracle en miracle, en fait. C'est bien moi qui a été choisi. D'une décision imparfaite au départ, on a un Dieu qui va s'investir, qui va investir en nous malgré tout. Dieu fait grâce. Amen là-dessus. Nous comprenons donc que Dieu a donné un cœur nouveau à Saül. Est-ce que nous-mêmes n'avons-nous pas reçu un cœur nouveau ? Est-ce que nous-mêmes ne marchons-nous pas en nouveauté de vie ? Est-ce que, oui ou non, nous marchons en nouveauté de vie ? Frères et sœurs, est-ce en nouveauté de vie que nous marchons ? Oui ou non ? Mais personne ne nous a forcé de marcher en nouveauté de vie. Oui ou non ? On l'a accepté. Alors, nous avons eu, nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Saül a reçu un cœur nouveau. On se met un peu à la place de Saül. Le jour de son couronnement, devant tout Israël, où est Saül ? On l'a dit tout à l'heure. Il se cache. Il se cache derrière des bagages. Alors qu'il a vu tout ce qui s'est passé juste avant. Samuel est venu le oindre. L'Esprit de Dieu est tombé sur Saül. Il a prophétisé, il a reçu quand même, je pense que là. Et il a peur, il se cache derrière des bagages. On commence à prier. Dieu, il en manque un. Où est le Benjamite ? Dieu révèle la cachette. On va chercher Saül de sa cachette et on le tire. Et on le couronne roi. Saül est alors fait roi devant tout Israël qui crie « Vive le roi !» Et quelques-uns d'entre eux, parce qu'il en faut toujours les mécontents, toujours des gens qui ne sont jamais contents de rien, qui vont dire quand même « Mais qui c'est celui-là qui va nous gouverner ? Mais qui c'est celui-là qui... Et roi, comme ça, nous, on n'accepte pas. Saül a entendu, mais il n'y prend pas garde. Et ça, mes amis, écoutez, nous aurons toujours des gens qui ne sont pas contents de qui nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas. Ça va alimenter ce fameux syndrome de l'imposteur dont tu parlais. Moi, j'en ai marre d'écouter la voix des hommes. Ça me fatigue d'être ce que les autres attendent de que je sois. Je suis qui je suis. Je dis ce que je dis. Je fais ce que je fais. Et si je m'en tiens à ce que disent les hommes de moi, à ce que disent les autres de moi, ça me ralentit. Ça me diminue. Ça ne m'exhorte pas. Pourquoi je vous dis ça ? Sortons de ce syndrome de l'imposteur. Ma sœur, sors de ce syndrome de l'imposteur. N'écoute pas la voix des hommes. Écoute celle de Dieu. D'accord ? Et tous ceux qui sont confrontés à ça, cessons d'écouter la voix des hommes. N'y prenez pas garde. On a reçu un appel, on a reçu quelque chose de fort sur nos vies. On est tous des champions ici. Il y a 2 semaines, on s'est avancé, on est tous des champions ici. Cessons d'écouter la voix des hommes qui nous disent sans cesse qu'on n'est pas à la hauteur ou que ce que nous faisons n'est ni assez bien, ni assez bon. Soyons qui nous sommes. Les gens mécontents, au verset 27 du chapitre 10, sont qualifiés d'hommes pervers quand ils disent « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. On fait un saut dans l'histoire. 2 ans de règne plus tard, on assiste au basculement. 1 Samuel chapitre 13. Au départ, nous avions un roi humble qui ne se sentait pas à la hauteur de la tâche, si bien qu'il s'est caché derrière des bagages. Il a pourtant été oint, rempli de l'esprit, avec un cœur nouveau. Et là, nous pouvons retenir cette leçon aujourd'hui. On peut dire que Dieu avait initié une vraie transformation dans la vie de Saül, oui ou non ? Une vraie transformation a été initiée dans nos vies quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Oui. Amen. Mais Saül reste responsable de ses choix et libre de ses décisions et de ses actes. Et on va voir ce qui se passe. Saül va commettre sa première grande erreur. On peut afficher le passage du chapitre 13, versets 8 à 14, s'il te plaît. Tentons de noter ceci pour nous, puisque c'est quand même assez révélateur. Le contexte encore, c'est que ici, on est en pleine bataille avec les Philistins, qui se sont rassemblés pour aller contre Israël. Mais la situation dégénère, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile pour le roi Saül, et il est en train de perdre ses moyens. Alors lisons. Donc Samuel avait dit à Saül, « Tu m'attends là, tu ne bouges pas, tu m'attends, j'arrive. » Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Dieu va tester notre attachement à lui dans des circonstances extrêmes. Quand nous serons sous pression. Alors Saül, verset 9. Donc amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce et il offrit l'holocauste. Ok. Que fait Saül ? Il est roi, pas sacrificateur. Il usurpe l'identité de qui ? De Samuel. Il prend la place de Samuel. Et Samuel arrive. Il prend la place de Samuel parce qu'il juge que Samuel est en retard. Combien de fois avons-nous dit à Dieu, tu es en retard ? Tu es en retard, je vais donc faire à ta place. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, verset 11, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, première justification, on se justifie. Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils, ma fille ? Justification. Oui, mais le peuple était en train de se disperser loin de moi. Deuxième justification. Que tu n'arrivais pas au terme fixé. Troisième justification. Et que les Philistins étaient assemblés à Micmash. Je me suis dit, verset 12, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Interprétation de ce qui va peut-être ou pas arriver. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. La décision mauvaise que prend Saül, motivée par de mauvaises justifications. Et Samuel dit à Saül, verset 13, « Tu as agi en insensé. Tu n'as... » Ah, prophétesse. Merci. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne en Israël. Et le jugement tombe. Et maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors c'était quand la dernière fois qu'on a cédé à la pression ? Quand je lis cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place de Saül. De dire, Seigneur, vous savez, j'ai la sensation que souvent on dit le roi Saül, c'est le mauvais roi. C'est vrai, non ? Parce qu'on a Saül, on a David tout de suite après, évidemment. David selon le cœur de Dieu, puis Saül, lui, qui n'avait rien demandé, qui plus est. Et on dit, on va venir. Saül s'était perdu. Et Saül s'était attaché à sa position de roi, plus qu'à Dieu. Il avait délibérément désobéi par peur du jugement de qui ? Du peuple. Désobéissance délibérée. Écoutez bien. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure ? Pourquoi on a pris le passage de 1 Pierre ? Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous n'agissons plus comme les autres agissent. Nous n'agissons plus sur des motifs illégitimes, sur des justifications. Ça s'appelle de la désobéissance délibérée. Nous savons que nous désobéissons. Nous savons ce que nous faisons délibérément. Et ça, pour ma vie, je ne vous le dis pas pour la vôtre, pour ne pas que ce soit un joug, mais moi, pour ma vie, je l'ai accepté longtemps. La désobéissance délibérée. Pardon. Pour ma vie, je parle pour moi, ce n'est pas admissible dans la présence de Dieu, ça. Je vous le dis comme je le pense, pour ma vie, Dieu, cette situation dans ta présence n'est pas admissible, puisque je désobéis délibérément. quel est notre niveau de crainte que nous avons de l'Éternel par rapport à cet appel. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous portons en nous. Nous sommes les porteurs du temple. Et cela doit nous inspirer une sainte crainte de Dieu. Je passe le chapitre 14, qui pourtant parle de l'exploit de Jonathan. Et moi, j'aime trop Jonathan. Et j'aimerais trop être un Jonathan pour vous. Parce que ici, il y a des Jonathan pour moi. Et je vous bénis, mes frères et mes sœurs, d'être des Jonathan pour ma vie. Et je nous appelle chacun à être des Jonathan pour l'autre. J'espère que vous connaissez l'histoire un petit peu de Jonathan, mais on va pas. Voilà. On va continuer. Samuel chapitre 15. Puisque quand Saül a désobéi une première fois, l'Éternel ne s'est pas encore retiré. Saül était encore roi. Donc, même si parfois on n'est pas parfait, ça ne veut pas dire que l'Éternel abandonne le combat pour nous. Il faut bien en être conscient quand même, parce que sinon, à quoi bon se lever le matin ? Mais ce qui va se passer dans 1 Samuel chapitre 15 révèle encore autre chose. Voici un autre contexte. Saül part en guerre contre Amalek, cette fois-ci. Et là, Dieu, par la bouche de Samuel, donne des instructions très précises. Et quand on lit ça, franchement, très dur. Vouage à l'interdit de tout être humain, homme, femme, enfant, bébé, tous les Amalécites doivent être voués à l'interdit, doivent être tués. Tous les animaux doivent être tués. Ça, c'était les instructions qu'avait reçues Saül de la part de Dieu. Et on peut comprendre qu'en recevant de telles instructions, c'est compliqué. Oui ou non ? Il faut passer par l'épée tout le monde. Ça, c'est le contexte. Et bien, c'est une grande victoire pour Saül, pour Israël. Sauf que, en cours de route, Saül, écoutez bien, écoutons bien la parole de Dieu. Saül décide à la place de Dieu ce qui est bon de ce qui ne l'est plus. Pire, il va redéfinir les règles et remanier les instructions à sa manière. Et là, je me dis, Seigneur, combien de fois dans ma vie j'ai tordu la vérité pour la mettre à mon service ? Combien de fois avons-nous fait ça ? Mais nous verrons que ceci n'est pas admissible dans la présence de Dieu. Tordre la vérité qui est sainte, pure et qui vient du trône même de la grâce de Dieu n'est pas admissible dans sa présence. Et en pleine désobéissance, alors que Samuel arrive, il dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de Dieu. » Alors que pas du tout. Mais lui, il est tout content, c'est une grande victoire pour lui. Il a le roi, il a capturé le roi. Et au passage, on a pris des bœufs et des animaux pour les offrir en sacrifice. C'est une grande victoire. « Sois béni de l'Éternel, Samuel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Et qu'est-ce qu'il va faire notre Saül ? Il va tenter de se justifier. Et il persiste en pensant que ce qu'il fait est bon. Il persiste. C'est-à-dire que nous pouvons recevoir tous les avertissements de France et de Navarre, de Tartampion et Tartampionne, qu'on va persister. C'est fou, ça! Oh, mais des années durant, j'ai persisté dans le mensonge de ma vie. Des années durant, j'ai préféré me tenir sur mes propres forces. J'ai persisté, bien qu'on pouvait me dire tout ce qu'on voulait, ça ne m'intéressait pas, puisque c'est moi qui avais la vérité. Puisque je tordais la vérité et je la mettais à mon service. L'instruction, c'était de vouer à l'interdit tout ce qui appartenait aux Amalécites et les Amalécites eux-mêmes. Saül décide de garder leur roi en vie et de garder le butin des brebis et des bœufs comme prémisse pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Écoutez ce que dit Saül. Il dit à Samuel, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Saül est pris en flagrant délit de religiosité. Et quand on est religieux, ça c'est l'esprit religieux, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète, quand on est religieux, on s'arrange, on arrange la vérité pour qu'elle nous serve, pour qu'elle serve nos desseins. Ça, c'est la religiosité. Et pour Saül, à ce moment-là, Dieu n'était plus le centre de décision intérieure. Dieu est-il le centre de décision intérieure de nos vies? Et là, c'est quand même ce que va dire Samuel, et une dinguerie pour nous tous qui passons nos vies les mains en l'air à louer Dieu comme ça, plutôt que de passer nos vies genoux à terre. Mains en l'air, VS, genoux à terre. L'un n'empêche pas l'autre. Sauf qu'il faut les deux. Et là, la réponse de Samuel ne se fait pas attendre. Il dit... L'Éternel, verset 22, pardon, c'est affiché. Oui. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. On peut venir ici, lancer les mains en l'air, tout ce qu'on veut. Mais si nous sommes dans la désobéissance, est-ce que Dieu agrée ou pas? Je pose la question. Si on décide de changer les règles établies par Dieu, en disant de toute façon on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc que nous décidons de changer les règles établies par Dieu, de faire à sa place, de décider ce qui est bon ou pas pour nos vies. Et on le fait tout le temps, on est d'accord, on a compris ce matin que de s'arranger, d'arranger la vérité et de la mettre à notre service, ça c'est un jeu auquel on sait très bien jouer. En tout cas, auquel je sais très bien jouer, malheureusement. Mais c'est un jeu auquel je décide de ne plus jouer. Et c'est un jeu auquel nous pouvons décider de ne plus jouer. Que va faire Dieu quand il voit que qu'on change les règles du jeu? Ce n'est pas un jeu, hein, pardon. Hein. C'est vraiment minimisé. Mais c'est un langage qu'on comprend bien. Peut-on encore lui demander de venir à notre secours? Quand on désobéit délibérément, peut-on encore demander à Dieu de venir à notre secours? Amen. Heureusement. Heureusement pour ma vie, les amis. Oui, bien sûr. Et notre sœur, tu m'as devancé. Si on se repent. Si on se repent. Est-ce qu'il y a de la repentance au milieu de nous? Ou est-ce qu'il y a de la justification? C'est-à-dire que parce que nous ne comprenons pas les situations dans lesquelles nous sommes, nous nous justifions. Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans la justification ou dans la repentance? Repentance ne veut pas dire « pardon Seigneur pour ce que je fais », repentance veut dire se détourner de ce que je suis en train de faire. Enfin, c'est quand même différent, il faut l'avouer. Je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas aligné avec toi, ô Dieu, mais je t'aime. Ben Dieu ne va pas agréer ça en fait. Dieu, il va agréer le cœur qui se repent de ce qui est en train de se passer dans sa vie, qui va se détourner de son péché, de ce qui le sépare, de ce qui est en train de le séparer de Dieu, et dont il n'a même pas conscience. Nous n'avons pas conscience que notre désobéissance nous détourne en fait de Dieu. Saül continue de se justifier, et enfin il va le reconnaître au verset 24. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Voilà. Avant, c'était « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Et après, hop, il reconnaît au verset 24. « Je n'ai pas obéi à tes paroles. » Verset 24, « Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Je craignais ma situation et j'ai agi charnellement. J'ai eu peur et je me suis détourné de toi. Et j'ai arrangé la vérité pour qu'elle me serve. Eh bien, dès lors, Saül va continuer encore à régner longtemps. Sauf que il ne portera plus l'avenir. Ce n'est plus lui qui portera l'avenir. Dieu aime le cœur humble. Qui sait se repentir quand il sait que la voie qu'il a choisie est fausse. Et Saül, il a tenté de préserver en fait sa situation. Il a dit « J'ai eu peur du peuple, mais moi je suis roi, j'ai pas envie de perdre ma royauté, j'ai pas envie de perdre mon statut. » À cause de situations qui ne jouent pas en notre faveur, on va agir contre la volonté de Dieu pour nos vies. Et beaucoup d'entre nous agissons par peur. Ou, à l'inverse, nous n'agissons pas par peur aussi. Et là, ce matin, Saint-Esprit, je te prie de descendre dans les entrailles de chacun d'entre nous pour révéler les peurs. Le motif de nos peurs ne peuvent pas être une justification pour la désobéissance, mes amis. Dans mon rêve, j'avais peur. J'étais sous un buisson à ce moment-là. Ma peur s'est démultipliée quand j'ai vu des dizaines de policiers armés jusqu'aux dents qui rentraient dans le bâtiment pour venir me chercher. Ça, c'est la suite du songe que j'ai fait. J'ai dit, moi, je voyais ça depuis sous mon buisson, en fait. J'ai dit, tout ça pour moi ? Ça vient avec des fusils d'assaut, enfin, ils sont 30 au moins. Et là, ma révélation à moi, c'est que j'avais peur d'être confronté à ma propre destinée. Le même chemin que je redoutais, c'est celui par lequel Dieu a décidé de me faire marcher. Ce que nous redoutons n'est pas une situation à fuir. Ce dont nous avons peur, c'est l'endroit même de notre vallée des térébintes. L'endroit de la peur est potentiellement l'endroit où on va devoir faire front et faire face pour rentrer dans ce que nous sommes. Est-ce que ça résonne dans vos cœurs ? Justement là où sont nos craintes, là où sont nos peurs, c'est l'endroit même où Dieu va nous traîner jusque dans les extrémités de nos peurs. Que nous apprenions à vaincre la peur. Et depuis mon buisson où j'avais peur, qui m'en a fait sortir ? Puisque charnellement, moi je disais adieu hein, dans le rêve, hein, je disais ah, mais c'est mort, hein, j'y vais pas. Hein. Ben, si je me lève, t'as vu, ils sont 50 maintenant. Je vais faire quoi, moi ? Et nouvelle fois, saisi par le Saint-Esprit, il m'a dit, maintenant tu te lèves et tu sors de ta cachette. Le songe nous dira plus tard que j'ai repris le commandement du bâtiment. Je suis sorti de sous le buisson et j'ai été projeté. Et à nouveau, j'avais repris le commandement du bâtiment. Sauf que cette peur, en fait, m'a valu des années et des années d'errance spirituelle. Vous savez, quand on on monte une marche comme ça, on fait comme ça. Hop, hop, non. Et les gens nous regardent, hein, ils voient. Hein. Les gens nous jugent. Hein. Ben oui. Oh. Ah, Seigneur, j'y suis presque. Ah ben non. Allez, j'y vais. Ah ben non. Imposteur. Imposteur, Jérémie. Puis qui es-tu pour qui tu te prends ? Imposteur, Anaïs. Pour qui tu te prends de venir prendre les drapeaux comme ça ? Mais quand on est dans ça, c'est pas drôle. Les gens voient bien qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on fait, on y va, on n'y va pas. Mais nous, on souffre à l'intérieur. En fait, les gens ne savent pas, parce que tu arrives avec ton sourire à l'église, mais en fait, t'es... Alors, tu fais la façade. Tu fais Saül qui est beau et grand et fort. Pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'il y a 2 semaines, les 9/10 de l'Église se sont levés pour répondre à un appel. Les 9/10 de l'Église ont dit « Je suis un champion ». C'est dans cette identité que nous nous sommes levés il y a 2 semaines. Je suis un champion. Il y en a qui ne se sont pas levés. Pourtant, moi, je vois des champions dans ceux qui ne se s'étaient pas levés aussi. Ces mêmes personnes qui ne s'étaient pas levées, moi, je voyais des Jonathan pour moi. Mais pour nous qui avons fait le choix de nous lever, les intimidations vont les bons trains, les amis. Parce que quand on décide qu'on est un champion, on se lève avec les armes d'un champion. Et que fait un champion ? Quelle est la destinée d'un champion ? Que fait un champion ? Oui. Que fait un champion ? Quand il sait que c'est un champion, il va au combat. Volontairement, il va au combat. Parce que c'est un champion. Volontairement, nous partons au combat. Volontairement, nous allons affronter nos peurs. Et on peut se mettre aussi dans la peau du roi David à ce moment-là. Le roi David, il a dit quoi ? J'entends qu'on insulte l'armée de l'Éternel ? Ça m'est insupportable. Alors, je me lève selon l'onction qui est sur ma vie et je pars au combat parce que je suis un champion. Est-ce que nous ne nous sommes pas levés pour répondre à cet appel ? Si. Les 9/10, nous nous sommes levés. Alors ce matin, ce qui concernait cet appel d'il y a 2 semaines n'était pas seulement individuel, ça concernait toute l'Église. Mais de toute évidence, ça passe aussi par un combat individuel. Et là, mes frères et sœurs, je vous interpelle, je nous interpelle chacun. Vous savez, on vit des temps qui ne sont pas glorieux du tout. Pas plus tard qu'hier soir, pardon, je ne dis pas ça pour affoler qui que ce soit. Nous, je le répète, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte qui n'avons plus rien à voir avec le monde, d'accord ? Ça, si on n'est pas fondé là-dessus, de toute évidence, on va avoir peur de tout ce qui se passe. Je lisais un commentaire d'un chrétien qui a 5000 followers sur Facebook et qui a dit ceci. Il a dit, on ne sait pas ce qui se joue ce week-end, mais potentiellement la Troisième Guerre mondiale. Pour tout un tas de raisons. Et soit, quand on est confronté à des choses comme ça, on s'affole, on a peur, et on se reclut. Puisqu'on a peur, on se cache derrière des cartons. Comme si les cartons ou les bagages allaient suffire pour nous protéger. Quand Dieu suscite des champions dans l'église du tabernacle et qu'il a suscité la quasi-totalité de son église pour être un champion et que nous voyons l'état de notre société, comment allons-nous répondre à notre propre engagement, les amis ? Et là, le Seigneur interpelle individuellement. Parce que tu t'es levé pour être un champion. Mon frère, ma sœur, tu vas être un champion. Mon frère, ma sœur, tu vas être un champion. Tu vas te lever. Nous allons nous lever. Nous allons confronter nos peurs. Nous allons vaincre. Ici même, la semaine prochaine, samedi soir prochain, il y aura des témoignages. Parce que cette semaine, vous allez aller sur le terrain. Nous allons nous confronter à nos peurs. Ah, c'est dur quand on fait des choses spirituelles et qu'il faut les amener à la vie par des actes. C'est là le genou à terre. Parce que spirituellement, on répond à un appel d'être un champion, mais maintenant, ça doit se concrétiser dans nos vies. Oui ou non, ma sœur, mon frère ? Oui ou non ? Et, oulala, les amis, si on a une équipe de champions ici et que nous nous levons dans notre appel et que nous cessons de tordre la vérité, mais que nous marchons dans la vérité, pour la vérité, avec la vérité, qui nous devance en toute chose, en tout temps et en toutes circonstances, alors non, nous n'agirons plus selon nos peurs. Nous agirons comme David l'a fait avec l'Éternel des armées. Toi, Goliath, tu viens avec ton javelot, ton épée et ta lance. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Mes frères, mes sœurs, il est fini le temps de la justification. Moi, je veux marcher en champion. Mais non seulement moi, mais vous. Je veux voir mes frères et sœurs se lever en Jonathan. Est-ce que vous avez envie d'être des Jonathan ? Est-ce que vous allez confronter vos peurs cette semaine ? Est-ce qu'on va avoir des témoignages de vie la semaine prochaine ? Est-ce que le Saint-Esprit allume ce feu en vous de Champions League ? Alors je vous pose la question et j'insiste. Parce qu'on ne répond pas à un appel simplement, charnellement, comme ça, on s'avance, on dit « ça sonne bien d'être un champion ». Là, on a une responsabilité maintenant. On ne peut plus croiser les bras par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. On ne peut plus simplement dire que tout ça, c'est que spirituel et que ça se passe que dans les cieux. C'était quoi l'échelle de Jacob ? Qu'est-ce qui se passait sur cette échelle ? Les anges, ils allaient et ils venaient entre ciel et terre. Ce n'est pas seulement un combat spirituel. Ce sont des choses qui se passent ici. Et nous avons été placés ici, maintenant, en 2026. Saint-Esprit, révèle ce matin. Révèle ce qui est en train de se passer. Révèle et visite les entrailles ce matin. Les amis, ne laissez pas passer cette opportunité que nous donne le Seigneur d'entrer dans cet appel de champion que nous sommes. Ne laissons pas passer. Ne laissons pas plus longtemps l'ennemi décider de comment nous allons prendre nos décisions ou pas. Ne laissons pas faire. Ne laissons pas l'ennemi prendre du terrain davantage. Vous savez, vous connaissez la vallée des Térébintes de vos vies. Nous la connaissons. Nous savons l'endroit exact où il faut qu'on travaille, où il faut qu'on lutte, où il faut qu'on combatte. Nous connaissons l'endroit. Nous savons très bien, puisque l'Éternel, ça fait 130 000 fois qu'il nous le dit. Et on se cache derrière des cartons parce qu'on a peur des circonstances et on a peur des conséquences. Parce que nous ne les maîtrisons pas, les conséquences. Mais on invente des conséquences. La peur nous fait parler à notre place. Sauf que demain ne m'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Et c'est dans ses mains que j'ai placé mon espérance. C'est dans ses mains, à lui, qu'est ma vie. C'est dans ses mains, à lui, qu'est la vérité. Il est le rocher de mon salut. Il est le rocher de mon espérance. Alors Seigneur, suscite l'envie et la volonté de la transformation dans la vie de mes frères et sœurs, dans ma vie. Ma prière est celle-ci. Et je donne un rendez-vous à toute l'Église la semaine prochaine pour que nous ayons des témoignages de ce que nous aurons vécu cette semaine. Parce que nous nous serons volontairement confrontés. Parce que nous aurons dit stop, je n'accepte plus cette situation dans ma vie. Alors je me lève et je pars au combat. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Alors, que notre Seigneur et Dieu, notre Père qui règne dans les cieux, soit l'objet de notre consolation ce matin. Soit l'objet de notre justice. De la vérité, du chemin et de la vie en notre cher Sauveur Jésus-Christ. Pour chacun d'entre nous ce matin, mes frères et sœurs, soyez bénis de l'Éternel. En son précieux nom. Amen.